There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million Francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces ouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, Je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmelade?
À l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, Mondo Carnaval vous invite au spectacle virtuel du groupe Les Sons Agréables le 25 février à 20h. Une prestation haute en couleur qui réunit de talentueux musiciens et chanteurs d'origine congolaise et sud-africaine. Ils vous surprendront par leur étonnant métissage de rythmes rumba, zouk et gospel. Un rendez-vous à ne pas manquer. Suivez le Mondo Carnaval sur Facebook et YouTube.
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le 2e bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la Croix de Victoria. L'ennemi s'est rendu. Marianne Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports, et continuent de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
Bonjour et bienvenue à votre magazine de la francophonie sur CUT 89,5 FM, la radio campus de l'Université de Toronto, la première radio de la ville reine selon le Now Magazine. L'ingénieur du son DJ Devera en compagnie de plusieurs DJ sur les 5 continents. Production animation Eric Adair avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et pour télécharger nos émissions, que vous soyez sur la planète, une seule adresse, popourishow.com. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre au Canada et dans le monde. Mille merci. L'histoire des communautés noires d'aujourd'hui et tous les jours, c'est le thème du mois de l'histoire des Noirs que nous propose le gouvernement du Canada. Et oui, le mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM voyage au cœur de l'univers des personnes d'ascendance africaine et antillaise qui, hélas, n'ont pas toujours leur place dans l'establishment francophone en Ontario, au Québec, au Manitoba et le reste du Canada. Et l'émission de ce dimanche est réalisée en partenariat avec nos médias partenaires de choix depuis 1991, Radio France Internationale, France Inter, TV5 Monde et France 24. Et nous remercions la précieuse collaboration des étudiants à la rédaction du journal Varsity, Université de Toronto, l'Afrique au rendez-vous en mode Zoom tout au long du mois avec la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, le mois de l'histoire des Noirs ville de Gatineau, Ciné Franco et sa programmation jeunesse en ligne entre le 22 février et le 9 mars. Commandez vos billets dès maintenant, plus de détails sur cinéfranco.com. Et mille merci au Théâtre de la Vieille 17 et la mosaïque interculturelle autour du projet À la rencontre, développé par Jenny Laguerre, qui était à l'émission la semaine dernière. De la Lito Music, qui nous fait part d'un événement culturel haut en couleur organisé par Mondo Carnaval du Québec, Les Sons Agréables, le 25 février à 20h, en mode virtuel bien sûr, un spectacle qui réunit de talentueux musiciens et chanteurs d'origine congolaise sud-africaine. Ils vous surprendront, mesdames, messieurs, sur leur étonnant métissage de rythmes rumba, zouk et gospel. Et aussi à ne pas rater le festival Festive Ben qui nous revient pour une 15e édition, et oui, en ligne, samedi 26 février à 19h, sous l'égide de Sophie Franc, l'organisme communautaire, un organisme créé en 2007 par des femmes immigrantes francophones vivant dans la région du Niagara et originaires de diverses parties du monde. Retrouvez toutes les dates et la programmation détaillée sur sophiefranc.org ou popourishow.com. Et oui, aussi au programme, les élèves noirs dans nos écoles en Ontario de plus en plus menacés. Amal Madibo, une amie rencontrée plusieurs années de cela grâce au professeur Fred Kaysa, nous revient avec un nouveau livre. Une table ronde est prévue pour le 1er mars à 17h, organisée par notre partenaire le CREFO, en partenariat avec l'Université d'Ottawa, une occasion pour le lancement du livre d'Amal Madibo, professeur agrégé au département de justice sociale en éducation « Blackness and la francophonie, anti-black racism, linguicism and the construction and negotiation of multiple minority identities ». Je vous rappelle que cette table ronde réunira Amal Madibo et Suzanne Huot, professeure adjointe à l'University of British Columbia, Emmanuel Lepichon-Wortzmann, directrice du CREFO Université de Toronto, Benoît Kungua, président du CIRCLID à Ottawa, Louisa Véronice, Université d'Ottawa. Elle sera la modératrice de cette table ronde. Je vous rappelle que cet événement sera en mode virtuel. Vous devez absolument vous inscrire. Veuillez visiter notre site web popourishow.com pour avoir tout le renseignement. Qui a mis le feu à Montréal le 10 avril 1734? Marie-Joseph Angélique, une esclave noire arrivée à Montréal en 1729. Les documents du procès dévoilent certains pans de la vie de cette jeune femme révoltée ou bouc émissaire. On en parle. Et aussi au programme, le journal d'Haïti et des Outre-mer sera bien au rendez-vous. Ils ont tourné le dos à la France, à la Belgique ou la Grande-Bretagne, leur destination traditionnelle, pour choisir Montréal à plusieurs dizaines de kilomètres de chez eux. Black à Montréal, qui sont-ils? Un documentaire exclusif de notre ami et confrère, le grand animateur et journaliste noir de Radio France Internationale, Alain Foucault. Moi de l'histoire des Noirs, comment rendre les espaces artistiques plus inclusifs? Nous recevrons pour la première fois à cette antenne Nicole Baptiste, présidente fondatrice Mosaïque Interculturelle et du Salon du Livre Afro-Canadien à Ottawa. Un entretien exclusif vers 12h35 à ne pas manquer. Mais pour tout de suite, le magazine L'Accent des Autres, l'essentiel de l'actualité des médias francophones publics.
Voici donc l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours vu par les médias francophones publics. C'est donc l'accent des autres, comme chaque semaine, avec Radio-Canada, France Inter, la Radio-Télévision Suisse, RFI et la RTBF. Bienvenue dans l'accent des autres. Le mouvement de protestation des camionneurs canadiens ne s'essouffle donc pas. Nadi, il a alimenté cette semaine les inquiétudes des autorités.
Oui, parce que les manifestants l'ont répété, nous sommes là pour rester tant que les mesures sanitaires ne sont pas levées. Le siège de la capitale canadienne, Ottawa, entamé il y a 2 semaines, semblait donc bien ancré, malgré la tentative des autorités de déloger les camionneurs et couper leur ravitaillement. Des rues du centre-ville avaient encore cette semaine des allures de stationnement à ciel ouvert. Un analyste l'a dit, cette occupation s'apparente à une opération militaire. D'ailleurs, jusqu'à il y a encore quelques jours, des protestataires prenaient le relais pour klaxonner dans les camions jusqu'à ce qu'une injonction en interdise la pratique. Des tentes ont aussi été dressées avec des cuisines fonctionnelles et le tout accompagné de ravitaillement en diesel. Bref, les manifestants sont bien équipés.
Et ce mouvement à Ottawa, Nadi, il fait des petits.
Absolument. Des sièges sont nés au Manitoba ou encore à Coutts en Alberta où des protestataires ont refusé de déplacer leurs véhicules pour libérer la principale route transfrontalière. Mais ce qui a surtout retenu l'attention cette semaine, c'est le blocage du pont Ambassador qui relie Windsor à Détroit et qui est le lien transfrontalier le plus important au pays. Des usines de constructeurs automobiles ont dû suspendre leur production, faute de pièces.
Voilà, le mouvement est donc suivi un peu partout au Canada, mais aussi en Europe, en France d'abord, même s'il n'est pas aussi important, Karine.
Pour l'instant, en France, la mobilisation n'a pas du tout l'ampleur de celle au Canada. Les manifestations annoncées ce samedi à Paris et lundi à Bruxelles ont été interdites par les préfectures de police. Reste à savoir si les initiateurs du mouvement tenteront de passer quand même ou pas. Ils en ont visiblement l'intention.
À suivre donc, et effectivement, manifestation, mobilisation interdite par les autorités à Bruxelles. On va rester à Bruxelles précisément avec 10 000 manifestants environ dans les rues ce jeudi. Le monde de l'enseignement est venu dénoncer des conditions de travail de plus en plus intenables, Jacques.
Et c'était la première grande manifestation des enseignants belges depuis 11 ans, action de protestation des profs, mais aussi de tous ceux qui travaillent dans les écoles. Ils sont venus dénoncer des conditions de travail qui, selon eux, se dégradent sans cesse.
Le nombre d'élèves par classe, la pénurie d'enseignants, les remplacements qui se succèdent, se retrouver quand une collègue est malade à 35 en classe, tout ça c'est difficile pour enseigner de manière correcte.
Ajoutez à cela une surcharge administrative, des réformes qui se font trop rapidement et des salaires assez peu attractifs. Le malaise est profond et l'épidémie de Covid n'a rien fait pour arranger les choses. Alors ce jeudi, beaucoup de profs n'ont pas donné cours, mais certains avaient tout de même décidé d'être en classe.
Alors effectivement, je ne fais pas la grève, mais c'est pas pour autant que je ne cautionne pas cette grève. Je la soutiens, mais j'ai décidé de quand même venir en classe parce que je trouve que l'année des enfants est quand même déjà assez décousue entre les quarantaines, les enfants malades, les classes fermées. Un jour, c'est un jour et donc tout est bon à prendre pour continuer les apprentissages avec les enfants.
Continuer les apprentissages, mais sans devoir bricoler constamment, c'est ce que demandent les enseignants. Ils ont été reçus par la ministre en charge de l'enseignement, mais les mesures avancées sont jugées insuffisantes. Les syndicats se disent déjà prêts à redescendre dans la rue.
L'accent des autres.
En Suisse, à présent, toute la population retient son souffle. Le gouvernement devrait annoncer la levée de presque toutes les restrictions sanitaires mercredi prochain. En attendant, Laurent, et après le Covid aigu, on se préoccupe désormais un peu plus sérieusement du syndrome du Covid long.
Oui, et ce phénomène est de plus en plus documenté car une proportion non négligeable des personnes qui ont été touchées par le Covid, on parle de 20 à 25%, ressentent toujours des symptômes des semaines, voire des mois après avoir fait la maladie. Ces symptômes sont très variables d'une personne à l'autre et les jeunes ne sont pas épargnés. Dans les cas les plus graves, cela implique de longues convalescences. Mais comment sait-on qu'on a le Covid long? Les explications d'Idriss Gassous, chef du service de médecine de premier recours des HUG à Genève.
Il y a enfin une définition claire de l'OMS. Finalement, c'est un spectre de symptômes. C'est pour ça qu'on parle de syndrome, finalement. Vous pouvez être fatigué et ou avoir mal à la tête, toujours avoir de la peine à respirer, une toux qui persiste, ne pas retrouver le goût, par exemple, donc des symptômes que vous pouvez tout à fait relier à la phase aiguë, mais ensuite vous pouvez avoir d'autres symptômes que vous n'aviez pas, troubles à vous endormir, troubles de concentration, le brouillard dans vos pensées, par exemple, et puis d'autres problèmes. Et ceci, des symptômes qui apparaissent après l'infection, qui est objectivé par un test ou une sérologie, et qui perdurent au-delà de 12 semaines, 3 mois.
En Afrique, la fin peut-être d'un long litige. La Cour internationale de justice, le tribunal des Nations Unies qui arbitre les litiges entre États, a condamné cette semaine l'Ouganda à verser 325 millions de dollars de dommages et intérêts à la République démocratique du Congo, une somme en guise de réparation après les dommages provoqués par l'occupation ougandaise dans l'Est congolais. C'était pendant la guerre très meurtrière qui a secoué la RDC entre 1998 et 2003, Nicolas.
Oui, les deux pays n'arrivaient pas à s'entendre depuis 2005. Kinshasa exigeait entre autres des compensations de plus de 11 milliards de dollars et que l'Ouganda juge ses officiers responsables de l'occupation. Kampala rejetait de son côté les prétentions congolaises. L'Ouganda estimait en effet que les responsabilités étaient largement partagées avec la dizaine d'autres pays impliqués dans ce qu'on a appelé la première guerre mondiale africaine.
Oui, finalement, la Cour accorde donc des indemnités très inférieures à ce que demandait le Congo.
En effet, les juges ont évoqué le manque de preuves suffisamment détaillées pour évaluer le préjudice. Ils ont également voulu fixer un montant réaliste pour que l'Ouganda puisse effectivement s'acquitter de sa dette de guerre. Les juges ont aussi voulu s'assurer que Kinshasa verse bien aux victimes les sommes encaissées. Le Congo avait annoncé la création d'un fonds pour les victimes de la guerre. Un contrôle devrait être exercé, notamment par la société civile congolaise et aussi par des experts étrangers. remboursé. Reste la question de savoir si Kampala s'acquittera effectivement de sa dette. L'Ouganda regrette une décision injuste et erronée. Elle assure discuter avec Kinshasa afin de trouver une solution durable et acceptable à ce litige, sans plus de précision.
Nicolas Sûr pour RFI. Enfin, nous allons nous quitter à Brest, en Bretagne, après la clôture du sommet mondial de l'océan, organisé cette semaine en France, donc. Et on va voir qu'il y a des sujets qui fâchent et qu'on préfère ne pas aborder, ou seulement de loin. La surpêche en fait partie. Des conférences l'abordent parfois du bout des lèvres, mais le gouvernement français ne l'a pas mis à l'agenda. Et ça, eh bien, ça irrite les ONG. Elles auraient voulu, par exemple, des mesures de lutte contre la surpêche ou des mesures de protection des mammifères marins, Célia Kiré.
C'est presque un sujet tabou. On parle ici de mer nourricière, de ressources, de l'océan, mais pas réellement de lutter contre la surpêche avec des mesures concrètes. Lamia Essamlali de l'ONG Sea Shepherd n'attend pas de miracle, mais elle a une demande précise.
Politiquement, c'est pas confortable de s'attaquer à la surpêche, et pourtant c'est la première menace qui pèse sur l'océan. Nous, ce qu'on demande, c'est des caméras embarquées à bord des bateaux qui envoient des images en simultané de ce qui sort des filets. Ça donne une photographie réaliste de l'impact de la pêche, notamment sur les espèces ciblées, mais aussi sur les espèces protégées qui sont capturées en grand nombre et qui souvent ne sont pas déclarées.
Le gouvernement français veut lutter contre la pêche illégale, mais pas question de revenir sur des quotas décidés par exemple à Bruxelles. Armand Quintel du Comité national des pêches en a assez aussi que les pêcheurs soient stigmatisés.
Là, actuellement, les stocks sont plutôt en très mauvaise santé sur certaines zones parce que la pollution chimique de l'océan, les plastiques, les nanoplastiques, même la qualité du plancton, elle est en difficulté, alors que la régulation de la pêche, bon, bah ok, sauf que c'est effectivement, au niveau international, il faut certainement réguler un peu mieux.
Mais il n'en sera pas question ici, et pourtant un tiers des stocks de poissons sont surexploités dans le monde, selon la FAO, et cela ne tient pas compte de la pêche illégale.
Célia Kiré pour France Inter, merci à mes consoeurs et mes confrères des médias francophones publics. L'accent des autres va se refermer ici pour aujourd'hui. C'est une collaboration entre Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et l'accent des autres revient bien sûr comme d'habitude la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires du Canada. Chaque année, ils sont des centaines provenant de la République démocratique du Congo, d'Haïti, de Burundi ou encore du Cameroun à obtenir leur résidence permanente au Canada. Ont-ils fait le bon choix ? Être noir au Canada est encore synonyme d'appauvrissement, de discrimination, et le gouffre s'est élargi en deux décennies. Comment éradiquer le racisme structurel ? Est-ce possible de promouvoir la pleine participation des francophones issus de la diaspora africaine et antillaise au sein de l'establishment francophone du Canada ? Une édition spéciale tout au long du mois de février, en partenariat avec la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec. Mois de l'histoire des Noirs de la ville de Gatineau, Ciné Franco, histoire des immigrants francophones, Sophie Franc et son spectacle Festive Ébène, le théâtre de la vieille 17 et mosaïque interculturelle, de la Little Music et Mondo Carnaval du Québec, RFI, France 24 et TV5 Monde. Et nos partenaires vous invitent à une série d'activités en mode virtuel. Découvrez leurs bons plans sur popourrichaud.com. En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires du Canada. Des expériences qui ont façonné l'histoire des Noirs dans notre société. CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h. 35 ans, on est toujours bien ensemble.
Marie-Joseph Angélique était une femme noire réduite en esclavage, accusée de l'un des crimes les plus infâmes de l'histoire du Québec. Marie-Joseph Angélique a tenté de s'enfuir avec son amant, un homme blanc prénommé Claude Thibault, mais ils ont été rattrapés et renvoyés à Montréal. Il a été mis en prison. Elle a été rendue à sa propriétaire, Madame de Francheville. Environ 2 mois plus tard, un incendie éclate et détruit la ville.
Alors, ce qu'on sait, c'est que le 10 avril, c'est un samedi, Madame Francheville est donc en haute ville, à l'église, pour les prières du soir. Et Marie-Joseph Angélique est sur le pas de la porte. Et voilà, soudainement, quelqu'un crie au feu.
Fire,
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 fire. It spread to the rest of...
Et il se propage au reste du quartier marchand de Montréal et rase le quartier marchand ainsi que l'hôpital, l'Hôtel Dieu et de nombreux autres bâtiments.
Et 3 heures plus tard, donc vers 10h, 11h du soir, il y a 46 maisons qui ont été détruites.
Des rumeurs circulent rapidement selon lesquelles Thibault et Angélique auraient mis le feu à la maison de Madame de Francheville. Et puis, le lendemain...
Elle a été placée en détention provisoire, puis ils l'ont amenée au tribunal le lendemain matin et elle a été accusée de l'incendie.
Malgré un manque de preuves, Marie-Joseph Angélique a été reconnue coupable, torturée et condamnée.
C'était Marie-Joseph Angélique contre toutes et tous.
On l'a fait défiler dans les rues de Montréal, vêtue d'une chemise blanche sur laquelle était brodé le mot « incendiaire », avant de faire face à sa pendaison.
Et tout ça devant une foule immense. Il n'y avait pas de spectacle en Nouvelle-France, c'était ça le spectacle. Qu'ensuite, on a détaché son corps et qu'on l'a brûlé.
Personne ne sait avec certitude si c'est Angélique qui a mis le feu. Mais nous savons comment elle est morte. Nous savons aussi comment elle a vécu. Elle a été réduite en esclavage. Comme plus de 4000 Africains et Autochtones, acheté et vendu au Canada.
Hear them calling for your fire. Hear them calling, calling, crawling, crawling for.
La mère est française, French America. Et au t'es mieux de rester fort. Car c'est pas un jeu quand t'es mort, t'es mort. Yo boy boy SP. Hey yo, t'es mieux de rester fort.
La réincarnation d'Al Capone, bababa, coup de bombe, 5-4 dans ma zone, que je cache dans mon compte, pour fermer les jolles. Pas sur l'internet, tu me vois en chair, et en os, tu te fais virer. Si jamais tu niaises avec le boss, je vais te prendre comme je m'en allais faire une sacoche. Visez la révolution, sera pas télévisée, chargé à bloc, puis j'ai visé, j'ouvre un bon chiffre. Arrête de me regarder à place, surveille ton fils. Arrête de hate, laisse les bousins talk shit. Garde le focus, c'est ça que je me dis quand je regarde mes trois kids. C'est juste là, c'est pour mon bread pis mon butter. Si c'est pas ça, je disparais ou je suis pas là. Je garde ça simple, c'est pas moi le number one stunner. J'ai pas de couleur, all black, no colors. Real city stand up, c'est notre street anthem. C'est correct si tu hate ta femme, elle a dit she handsome. Le mic je le tiens comme si c'était une chainsaw.
Ring ring ring,
j'ai la rage, c'est même pas.
C'est même pas, c'est même pas.
Lentement mais sûrement, c'est le rap québécois, c'est lourd. Je me souviens, je pense que je donnais les vents dans une petite cale, la vie c'est une j'en ai dans ton pif pack, piqué dans mon zig zag.
Bon, c'est trop, mais t'as ce que je dois mettre. Ça veut dire quoi faire? La planète sur les épaules, ça paraissait même bon. L'œil est dans un autre univers. Et on dit mieux de rester fort. Car c'est pas un jeu quand t'es mort, t'as un sac d'école, mais t'es sot. Sont ton cahier, prends des notes, des notes.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Yeah. Moi, je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Nédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Nédor Fondation Diversity Our Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Nédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Nédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Media, Croix-Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Encore une fête de chute.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19?
Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Les fausses informations, tout le monde en parle.
Fake news.
Dans Info Intox, vous allez voir des exemples d'infox qui montrent que certains internautes sont parfois prêts à tout pour vous tromper.
Spécial d'Info ou Intox, lundi dans Paris Direct sur France 24 et France24.com.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Monsieur Molière s'engage à préparer le sieur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise.
Car c'est d'amour dont il est question. Celui que je porte, c'est le même. Faites-moi le cheval.
Ah non, pas le cheval.
Je veux être au sommet de la perfection.
2022 est l'année de Molière, l'un des plus célèbres dramaturges français. Il est aujourd'hui l'auteur français le plus joué dans le monde. Pourquoi parle-t-on encore de lui 4 siècles plus tard? Quand et comment son œuvre est-elle arrivée en Afrique? Molière l'Africain, est-ce possible? Des éléments de réponse avec nos correspondants et comédiens en Europe et en Afrique tout au long de l'année 2022. Alors soyez-y. Popourri chaud, 35 ans déjà. On est toujours bien ensemble.
CIUT-FM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises. Édition spéciale sur CUT 89,5 FM. Moins de l'histoire des Noirs. Comment rendre les espaces artistiques plus inclusifs? Nous recevrons pour la première fois Nicole Baptiste, présidente fondatrice Mosaïque Interculturelle et du Salon du Livre Afro-Canadien à Ottawa vers 12h35, à ne pas manquer. Y a-t-il un problème de représentation des Noirs dans les médias francophones au Canada? À l'occasion de notre 35e anniversaire, Popourri Show, en partenariat avec Radio France Internationale, France 24, vous propose les grandes voix. Hommes, femmes, noirs des médias francophones. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Alain Focat, d'origine camerounaise, qui présente chaque samedi sur RFI, Archives d'Afrique, qui raconte l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Et chaque dimanche, le débat africain, le lieu des échanges d'idées sur l'économie, la politique, la vie sociale et culturelle de l'Afrique et du monde. Alain Foucault, que nous connaissons très bien, que nous avons rencontré à plusieurs reprises à RFI, grand voyageur, était à Montréal il y a quelque temps pour réaliser un document sur les Africains qui ont tourné le dos à la France, la Belgique ou la Grande-Bretagne pour épouser l'hiver et le Québec. Black à Montréal, qui sont-ils ? Pourquoi les Africains francophones osent prendre le risque pour s'établir à Montréal ? Sont-ils tous des réfugiés ou sont-ils des professionnels ? Comment se passe leur intégration dans cette belle province qu'est le Québec ? Voici un extrait de Black à Montréal. Qui sont-ils ? Réalisé par Alain Foucault, producteur, animateur à Radio France Internationale. Mais juste avant, je vous invite à un dépaysement total. Direction le Cameroun, au studio de RTI, le jeune et dynamique Jean-Michel Hina fait la bio décalée d'Alain Foucault. Magneto DJ Devera.
La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honneur.
Yes, thank you. Alain Foucault, bonjour.
Bonjour.
Un proverbe du Cameroun, votre source, dit que l'avenir, c'est un enfant dans le ventre de sa mère. Vous en êtes sorti le 22 juillet 1964 à l'hôpital de Douala, à la jubilation de votre père, un officier de police. D'après un autre dicton, Bamileke, quand on porte un enfant, il ne sait pas que la route est longue. Votre itinéraire bien encadré s'est étendu sur des kilomètres et des heures de formation ponctuées par un bac littéraire avec mention bien en 79, des diplômes de Sciences Po Paris, d'écoles de journalisme telles que l'ESIJ Cameroun, de la rue du Louvre et de l'ESRA Paris. Au début de votre carrière, Alain Foucault, après la rédac de France Inter, vous avez côtoyé le danger et la mort comme correspondant de guerre pour la 5 d'alors. Mais par quel principe donc cet indéfectible de foot, boxe, documentaire animalier, père de deux garçons et deux filles, parrain de nombreux orphelins, chanteur et joueur de batterie à temps perdu, a-t-il gagné une telle audience et notoriété pour s'imposer comme l'un des journalistes africains les plus influents au monde ? Dans la bio décalée,
il n'y a pas de hasard.
Et oui, votre nom est un puzzle qui cache les mots-clés de votre destinée. Alain Foucault, regarde sur ce tableau. Alain Foucault, il en ressort les termes suivants. Aka, ou prononcé Aka. Dans les rues de Douala, ça veut dire je m'en fous. Aka, laisse tout ça.
Aka.
Aka. Fala, c'est aussi dans le français de Douala, ça veut dire chercher. Il fallait les clés de sa bougna, il cherche les clés de sa voiture. Et puis Nio, c'est en bassa, une langue camerounaise, ça signifie la bouche. Et voilà. Aka, pour commencer, Alain Foucault, vous avez connu il y a quelques années l'hostilité à Europe 1, où on vous a lancé « Les Français ne sont pas prêts à écouter une voix africaine ». Ulcéré, froissé, vous avez tout de même su faire ce « Aka », ce « Je m'en fous ». Je ne vais pas pour autant me formaliser, pleurnicher, je vais trouver ma place ailleurs. Comme quoi nous ne devons pas laisser une expérience désagréable de la vie ou l'attitude des autres refroidir ou enterrer nos rêves. Fala, chercher. Après avoir démissionné d'Europe 1, vous allez à l'aide d'une caméra achetée à crédit, je le précise, Fala, chercher, fouiller à travers le continent pour nous sortir des trésors que vous transformez en documentaires à succès. Ainsi, depuis 1985, vous produisez des contenus à fort intérêt. Votre société Phoenix Productions, depuis 1992, vend de nombreux documentaires sur l'Afrique et sa diaspora à de grandes chaînes de télévision comme Planète, France 2, TF1. Visiblement, l'indésirable est devenu une référence internationale. Une carrière prolifique qui vous a valu une dizaine de distinctions, dont le prestigieux prix de la Fondation Nelson Mandela du meilleur journaliste africain en 2016. Nio, la bouche qui est le symbole de la tradition orale, de la transmission. Alain Foucault, il n'y a pas de hasard. C'est dans un métier d'oralité que vous deviez tailler votre dimension. Entré à RFI en 1994, votre talent de narration régale, a régalé, continue de régaler des millions d'auditeurs africains et européens à travers vos émissions Afrique Plus, Le Débat Africain, Médias d'Afrique, Archives d'Afrique, qui pulvérisent des records d'audience. Un proverbe douala dit, et excusez mon accent, Motonou malangwe, miyango mauma, awumo, namunyenge nde edipang. Alors, traduction. Ça a été laborieux pour moi. Voilà une façon de faire un clin d'œil à tous nos amis camerounais qui regardent. On vous envoie beaucoup de ndolo. C'est comme ça que ça se dit, ndolo.
Ndolo, oui.
Voilà. Celui qui raconte c'est la traduction, celui qui raconte avec joie les récits de l'endroit d'où il vient est épanoui. Alain Foucault, orpailleur, restaurateur, ambassadeur de l'histoire africaine, défenseur de ses regards, son opinion, son image, son authenticité, ses succès, votre engagement nous inspire. La jeunesse du continent, par ma voix, vous remercie millions de fois pour ces précieux coffrets d'archives d'Afrique, pour ces formidables enquêtes documentaires, pour cet héritage inestimable que vous laissez à la génération, car le passé éclaire le présent pour mieux préparer l'avenir.
Nous sommes à 8200 km de la première ville africaine, Monrovia, au Libéria. Ici, il fait entre moins 20 et moins 40 degrés pendant 7 à 8 mois dans l'année. Et pourtant, il existe ici une forte communauté africaine. Il faut dire que les premiers Africains qui arrivent ici sont venus comme esclaves. Dans les années 1632, bienvenue à Montréal, au Canada. Nous allons aller à la rencontre de ces Africains qui ont choisi l'expatriation dans un endroit où la température est totalement hostile pour eux. Je vous invite à me suivre à Montréal, au Québec.
Je m'appelle Marie-Laure Conan, d'origine ivoirienne, donc je suis de la Côte d'Ivoire. Et j'ai immigré ici au Canada en 2004.
Mon nom c'est Salif Sangaré, je suis arrivé au Canada ici en 1994 dans le cadre des études.
Je suis arrivé ici en septembre 2001 et je venais de Madagascar où j'avais été au lycée et tout de suite après le bac. Je suis arrivé à Montréal pour les études.
Je suis née au Congo, au Congo-Kinshasa. Mon père est indien, né à Bukavu, et ma mère est moitié portugaise, moitié congolaise.
Alors, je viens d'un petit village qui s'appelle Ivoudjal, se trouve en Mauritanie. Je suis arrivé ici le 24 septembre 1996. Vol direct.
Moi, je suis congolais d'origine, mais je venais du Gabon, parce que c'est au Gabon que j'ai fait mes études primaires, et c'est là-bas que j'étais établi avant de venir au Canada.
Je viens du Cameroun. Je suis arrivé le 9 février 2008 au Canada, dans l'optique de pouvoir redonner un sens à ma vie.
En tant que francophone, c'est la ville qui attire plus de 80% des immigrants de cette langue-là. Donc quand on parle du Canada, on sait que c'est un pays bilingue. Alors en tant qu'immigrant, on se dit que si on commence par une province francophone, ce serait le moyen le plus sûr de pouvoir mieux s'intégrer. Alors Montréal étant la métropole du Québec, je me suis installée à Montréal.
Le Canada, c'est un pays d'immigration par excellence. Nous recevons chaque année minimum 250 000 nouveaux immigrants. Toutes catégories confondues.
Ironie de l'histoire tout de même lorsque l'on se souvient que les premiers Noirs arrivés dans cette ville au XVIIe siècle étaient tous des esclaves traînés de force dans cet univers de grand froid. Ce n'était pas vraiment le lieu où l'on croisait les subsahariens. Jusque dans les années 1960, les politiques discriminatoires d'immigration envers les non-blancs bloquaient clairement la venue des Africains. Aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers à arriver volontairement à Montréal. Avec cette fois-ci, c'est ça la nouveauté, un accueil totalement différent de celui qui était accordé à leurs ancêtres. Les banquiers, les avocats, les médecins, les cadres supérieurs, les journalistes, les enseignants, les hommes d'affaires, les diplômés, les informaticiens et beaucoup d'étudiants. Souvent confondus par les locaux haïtiens, le groupe de personnes noires majoritaires dans la cité, ils viennent pour l'essentiel des pays francophones d'Afrique.
pour le Québec, pour préserver une société francophone en Amérique du Nord, l'immigration joue un rôle clé, bien important pour nous d'avoir des gens. Donc, on voit la France, qui est un bassin important pour le Québec, mais de plus en plus l'Afrique, qui est un bassin important pour nous ici au Québec. Et je vous dirais aussi dans certaines provinces qui s'intéressent aussi à l'Afrique francophone, parce qu'il y a des communautés francophones qui ont besoin de renforcer.
Si pendant plusieurs décennies, les destinations de prédilection à la fois des travailleurs qualifiés et non qualifiés, mais également des étudiants africains étaient Paris, Londres et Bruxelles, essentiellement à raison du lien historique né de la colonisation, les choses semblent avoir considérablement changé au cours des deux dernières décennies.
Au niveau de la communauté africaine, ça constitue le troisième groupe de la communauté noire au Canada. Nous ne sommes pas très nombreux. Et l'immigration africaine ne date pas de très longtemps. C'est des années 90 et suivant.
À mesure que les anciennes puissances colonisatrices durcissaient les conditions d'entrée et d'installation sur leur territoire, le Québec, confronté au vieillissement de sa population, assouplissait les mesures d'accueil des migrants sur son sol. Dans les années 1960, la province du Québec revendique le droit fédéral de participer à la sélection des immigrants sur son territoire. En 1965, est alors créé le Service d'immigration du Québec. Puis en 68, le ministère de l'immigration du Québec.
On a une entente quasi constitutionnelle avec le gouvernement canadien. Donc, on rentre dans un pays, hein, c'est le Canada. Et donc, les règles et la prédominance canadienne en matière d'immigration, elle est bien ancrée dans l'entente qu'on a. Mais le Québec choisit son immigration économique, qui est à peu près entre 60 et 70% de notre immigration, c'est économique, c'est des travailleurs qualifiés qu'on sélectionne pour répondre à nos besoins économiques. Ensuite, il y a l'immigration humanitaire, donc des réfugiés. Ça, c'est vraiment le gouvernement fédéral qui sélectionne et qui a le mandat, la responsabilité de les choisir et de les amener ici selon des ententes avec le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies. Mais le Québec va toujours indiquer au gouvernement canadien quels seraient les pays qui auraient de provenance de ces réfugiés, qui auraient les meilleures chances de s'intégrer ici, en partie à cause de la langue ou peut-être parce qu'il y a déjà une communauté qui est ici. Je mentionne ça parce qu'il y a la République démocratique du Congo, quand même beaucoup de personnes qui viennent de la République depuis plusieurs années. Ensuite, il y a l'immigration familiale. Et c'est encore une fois, c'est le gouvernement fédéral, mais on appelle ça l'immigration induite. Donc, c'est souvent les membres de la famille du travailleur qualifié qui a été sélectionné. Ça peut être ses parents, les enfants.
Ici, au Québec, on fait face à un vieillissement démographique. Puis on a un marché d'emploi qui commence à être de plus en plus resserré. Puis on a déjà certains secteurs économiques où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, l'immigration est une des sources, en fait, pour aller pallier ces manques de main-d'œuvre-là. Alors, plus on est capable d'aller chercher des immigrants qualifiés qui répondent aux besoins du marché du travail, plus on va permettre à nos entreprises de croître et de se développer. Fait, oui, ça fait partie de notre mission, effectivement.
D'abord, on est dans une fédération. L'immigration est des compétences partagées. Nous avons de la compétence fédérale et nous avons des provinces qui ont signé des accords avec le Canada. Et en 91, le Québec, qui est une province francophone, a signé des accords avec le Canada qui permet au Québec d'aller sélectionner des ressortissants francophones pour venir s'installer au Québec. Ça se fait à travers des programmes. Nous avons le programme des travailleurs qualifiés. Nous avons le programme des travailleurs autonomes. Nous avons le programme des investisseurs. Alors, ces trois programmes-là permettent à ce que le Québec choisisse lui-même ses immigrants et venir s'installer au Québec.
À partir de 1978, le Québec peut choisir ses immigrants selon des critères propres avec un système de points d'appréciation établi par son ministère.
Je suis venu du Canada, du Cameroun, avec une résidence permanente. Et le lendemain, je suis arrivé au Québec et deux jours après, j'avais mon NAS et je pouvais aller travailler. Donc, vu le fait que j'étais un athlète de haut niveau par le passé dans ma vie antérieure, je jouais pour l'équipe du Cameroun de rugby. Donc, j'ai directement intégré le rugby club de Montréal et à la première salle d'entraînement, ils m'ont fait intégrer l'équipe du Québec. Et de là, j'ai eu une opportunité d'emploi. Donc, ça s'est passé en un temps de mouvement, en quelque sorte.
Il faut dire que ici, les autorités gouvernementales, les autorités municipales sont clairement engagées, c'est fixé dans la loi et c'est même dans la culture administrative et politique de mettre en place un cadre qui permette l'accueil et la gestion des gens qui ont des talents et qui ont des capacités au niveau de l'immigration. Cela ne veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, l'engagement y est et les politiques y sont.
Autant de dispositions qui ont permis à de nombreux diplômés africains de s'installer dans la capitale québécoise ces deux dernières décennies.
Je rigole parce que, effectivement, la notion de papier, il faut l'avoir vécu pour savoir de quoi il s'agit. En fait, en France, j'ai des amis à moi qui, aujourd'hui, ont 3 masters, sinon 4. Il y en a qui ont des doctorats, plusieurs doctorats, et ensuite qui s'en vont refaire licence en anglais parce qu'on veut des papiers. Alors, je dois dire que c'est quand même une gymnastique à 365 jours. Hein. C'est-à-dire, dès qu'on obtient le visa, c'est le papier cette année, on commence à réfléchir pour l'année prochaine. Je suis descendu de l'avion, une fois que j'ai franchi la douane, si on veut. J'ai senti une espèce de liberté que je ne savais pas comment mesurer. Et je me suis senti enfin comme libéré, quoi. C'est-à-dire, puis le lendemain, je suis allé chercher mon AS. Et puis, partant de là, il n'y avait plus de soucis de papier. Je n'ai plus jamais pensé. Puis, j'essaie de jamais penser au papier.
Je suis né à Sikasso, la 3e région du Mali. J'ai fait des études primaires là-bas. Par la suite, à Bamako, la capitale, j'ai été à l'ENA. Faculté sciences juridiques et par la suite je suis venu au Canada ici en 94. C'est dans le cadre du concours de droit international et humanitaire qui avait été organisé en 94 au Canada ici et c'est via ce concours que je suis venu au Canada et finalement j'ai continué les études et après les études j'ai décidé de rester.
C'était le choix de mon père parce que justement après le Gabon il voulait retourner au Congo. Mais on était en 1992, il y avait eu une situation politique instable et comme il avait des amis au Canada, il a décidé de venir ici pour la langue, le français aussi, pour une certaine facilité à entreprendre et à faire sa vie. Moi j'ai fait gestion du marketing au HEC Montréal et donc c'est principalement ça que j'ai fait comme études universitaires. Avant j'ai fait des études collégiales en commerce.
Loin de vouloir frasser mes amis français. J'ai vécu mon expérience d'immigration vraiment très positivement ici au Québec. Ici au Québec, il y a des lois qui protègent les droits de la diversité. Donc la diversité est très valorisée ici au Québec.
En 1994, la législation en matière d'immigration qui était en place ne permettait pas aux étudiants de travailler. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de modifications. Les étudiants peuvent travailler. Je me suis déplacé jusqu'à Vancouver. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tree planting, aller planter des arbres à Vancouver. Je faisais ça en même temps, je faisais les études. C'est en hiver, j'étudiais à temps plein. Et pendant l'été, on partait travailler à Vancouver, planter des arbres.
C'est sûr qu'à comparer le Canada et la France, c'est en termes d'opportunités et d'emploi pour un jeune, c'est diamétralement opposé. On sait qu'est-ce qu'on vit en France. Le Québec, particulièrement, a l'avantage de présenter beaucoup d'opportunités à ceux qui travaillent, à ceux qui sont dévoués, ceux qui veulent travailler. Alors, je peux vous dire que ça m'a pris 3 jours à arriver au Québec. Ça m'a pris en fait 1 semaine pour m'installer, c'est-à-dire trouver un logement et m'installer. C'est qui peut prendre des mois en France, si on veut.
Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je fais ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire j'ai créé ma propre entreprise. Et mon entreprise, justement, c'est une école de langue africaine. C'est la première école de langue africaine au Canada. Et le but, c'est de faire la promotion des langues africaines ici, dans ce pays-là. Les langues que l'on enseigne ici, c'est principalement 7 langues, c'est-à-dire le Swahili, le Lingala, le Wolof, le Bambara, le Kikongo, le Tchiluba et le Bassa. Donc c'est les langues sur lesquelles pour l'instant on focus et c'est les langues qu'on offre en cours de groupe.
Nous, j'avais rencontré Freddy puis on avait mijoté notre petite idée hein, d'activité de transfert de fonds. Puis on a travaillé ensemble dans nos garages pour un bout de temps, pour 6 mois, 1 an environ, depuis 2014. Puis à un moment donné, on a compris qu'on avait besoin d'un support extérieur, que ce soit en termes d'accompagnement, que ce soit en termes de local, de vivre dans un environnement qui allait avec ce qu'on voulait faire. Et du coup, on s'est mis à rechercher. C'est Freddy qui, je dois dire comme ça, fortuitement est tombé sur une jeune dame qui lui a parlé de District 3. Et là, nous avons appliqué pour District 3. On a présenté notre projet. Nous sommes passés à plusieurs speeches ici. Et ça n'a pas été facile à comprendre parce que l'environnement ne cadrait pas. Je dois dire que le transfert d'argent, c'est quelque chose qui est typique aux Noirs, aux Africains, si on veut. Alors, les Blancs qui étaient là, ça a été difficile de comprendre pourquoi déjà on envoie l'argent à quelqu'un d'autre.
Je ne définis pas ce que nous offrons comme service simplement comme un transfert d'argent. Pour nous, c'est au-delà de cela. Au-delà de cela, pourquoi ? Parce que je prends l'immigrant que nous sommes. Nous sommes arrivés au Canada, nous travaillons très fort pour gagner nos vies. Et on trouvait cela difficile, avec le facteur climat, avec le facteur temps, de pouvoir faire bénéficier aux nôtres qui sont en Afrique le fruit de notre dur labeur. Et on se sentait pas bien de payer des sommes astronomiques pour le service qui était rendu, qui était un échange d'informations en quelque sorte. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on va continuer à dépendre des majors qui existent ? Ou bien on va devoir le bâtir ? On a décidé à trois de changer les choses.
Même si les deux associés des Square Union se sont séparés depuis le tournage de ce document, l'aventure se poursuit avec Freddy Noumeyi, qui a élargi le champ d'action de la compagnie de transfert d'argent. Comme lui, ils sont un certain nombre dans la communauté africaine de Montréal à avoir choisi de monter leur propre affaire, de se lancer dans l'entrepreneuriat.
On voit beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires originaires d'Afrique qui se démarquent par leur leadership, qui se démarquent par des actions qu'ils ont faites. Mais je ne saurais pas vous dire qu'il y a un secteur en particulier. J'ai l'impression que c'est assez transversal dans notre société.
Bon, l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Et lorsque, en fait, les gens arrivent ici avec un certain retard, je veux dire, ils arrivent ici beaucoup à l'âge adulte, donc tout est à construire souvent. Le réseau, comprendre les méthodes de financement, comprendre tout ce qui est gestion administrative également. Donc, ils arrivent avec un certain retard. Les organisations comme le REPAF, on est là justement pour les aider à combler cet écart. Donc, les défis sont beaucoup au niveau du financement des entreprises et puis le réseau, en fait. Où finalement, il faut vendre, il faut développer des partenariats, etc. Donc, ces éléments sont très difficiles. Moi, j'ai grandi ici et je vois certains de mes collègues donc d'enfance qui ont des entreprises extrêmement florissantes mais qui bénéficient énormément de leur réseau. Donc d'un réseau qu'ils ont développé depuis le primaire jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui permet d'avoir des entreprises qu'ils ouvrent donc rapidement Montréal, Ottawa, Vancouver, Pittsburgh. Donc rapidement leur réseau s'étend parce que leur entreprise s'étend parce qu'ils ont eu un réseau, ils ont eu à développer un réseau très jeune quoi. Le REPAF, d'abord c'est une organisation qui a été fondée il y a 12 ans et je vous dirais pour être quelqu'un de assez impliqué dans la communauté et puis bon ma famille également, être en mesure de durer aussi longtemps c'est déjà une réussite. Donc le REPAF a été fondé il y a 12 ans par quatre Africains qui étaient au HEC et qui avaient compris qu'ils devaient mettre leur réseau en commun pour être en mesure d'accomplir, en fait d'avoir une carrière ou une entreprise à la hauteur de leurs ambitions. Donc ils mettent leur réseau en commun et finalement la mission devient de favoriser l'intégration mais surtout le leadership socio-professionnel et entrepreneurial des membres. Au départ, plusieurs membres étaient des professionnels et le REPAF a dû faire de la sensibilisation à l'option de l'entrepreneuriat. Bon, on sait beaucoup d'Africains avaient tendance à prendre la voie de la carrière et peu la voie de l'entrepreneuriat. Donc le REPAF a fait beaucoup de sensibilisation à cet effet à Montréal et au Québec en général. Et aujourd'hui, bon, l'entrepreneuriat est sur toutes les lèvres de la plupart des Africains. On a développé un programme de mentorat d'affaires et professionnels et on a développé également tout un axe de leadership, c'est-à-dire qu'on s'assure que le talent africain soit connu à Montréal. Bon, on sait qu'il y a des problèmes en termes de représentation de la diversité dans les médias ici à Montréal ou au Québec en général. Donc le REPAF s'est donné comme mission de ressortir ces talents-là qui sont ici.
Mais le Québec, Montréal, fait également des yeux doux aux investisseurs. Il a mis sur pied un programme qui permet aux porteurs de capitaux de bénéficier de la résidence et même de la naturalisation. Pour être éligible à ce programme, des investisseurs, plusieurs conditions. Il faut disposer seul ou avec l'époux ou le conjoint de fait qui vous accompagne d'un avoir net d'au moins 2 millions de dollars canadiens, obtenu licitement bien sûr. Seconde condition, il faut avoir une expérience en gestion d'au moins 2 ans au cours des 5 ans précédant la demande de sélection. Cette expérience doit comprendre des fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles sous votre autorité. Il faut signer une convention d'investissement avec un intermédiaire financier tel que courtier ou société de fiducie autorisé à participer au programme des investisseurs. Il faut en troisième condition avoir l'intention de vous établir au Québec. Il faut aussi effectuer un placement à terme de 5 ans d'une somme de 1 200 000 $ auprès d'Investissement Québec Immigrant Investisseur Inc. Et bien sûr, il y a le niveau de connaissance de la langue française. Ils sont ainsi quelques grands hommes d'affaires, de grandes fortunes africains, avec des propriétés à Montréal, qui portent désormais un passeport canadien, bien qu'ils passent l'essentiel de leur vie dans leur pays d'origine. Et puis les barons, les politiques africains, échaudés par les affaires de biens mal acquis en France, des ministres, des hauts fonctionnaires africains ou leurs amis hommes d'affaires ont investi dans l'immobilier au Canada. Et ce, pour un montant de plus de 23 millions d'euros, effectué par une quinzaine de personnalités exposées politiquement. Ces fonds ne sont pas forcément issus d'activités illicites, mais leur provenance pose question. La plupart des Africains fortunés, repérés dans le registre foncier canadien, ont acheté sans hypothèque et détiennent ces immeubles pour les louer et en tirer un revenu. Mais certains de ces dirigeants se sont vus refuser le permis de résidence en raison des interrogations sur l'origine de leurs fonds. En théorie, les courtiers et agents immobiliers canadiens ainsi que les entités financières telles que les banques sont tenus de détecter les opérations douteuses et de les déclarer au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, la CANAF, qui informe ensuite la police.
Un pays actif et proactif qui a su mettre sur pied un cadre d'accueil, notamment pour les étudiants étrangers. Montréal est devenu depuis quelques années une direction très courue par les bacheliers et diplômés africains, qu'ils viennent directement du continent ou des autres régions du monde, notamment d'Europe. Mais comment s'intègre-t-il dans cet environnement de grand froid à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de chez eux? Quel avenir pour eux dans cette ville du nord de l'Amérique? Je vous convie dans la deuxième partie de cette série Black à Montréal à découvrir le Montréal des étudiants africains. Leur vie, leur filière, leur choix et leur débouché.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Eh oui, êtes-vous franglais ou francophone? En mars 2022, CUTFM, RFI et leurs partenaires vous invitent à célébrer le mois de la francophonie. Et ça va bouger. Après plus de 2 ans à tourner en rond, cette 35e édition vous invite à bouger et à cadencer au rythme du monde de la francophonie. Concours, témoignages, débats, rencontres littéraires, cinéma, humour, des exclusivités et bien encore. Et oui, mars 2022, ça va bouger, bouger pour changer son mal de place. Actes culturels, sociaux, éducatifs, devenez partenaire à la première radio de la ville de Toronto. Valorisez votre programmation de la semaine ou du mois de la francophonie. Inscrivez-vous à notre programme officiel 2022. Envoyez-nous votre logo. Découvrez les modalités. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Êtes-vous franglais ou francophone? Nous sommes 300 millions de francophones dans le monde, alors il faut se parler. Et bouger avec Popourri Chaud sur CNT 89,5 FM. 35 ans déjà, on est toujours bien ensemble. Et on bouge.
À l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, Mondo Carnaval vous invite au spectacle virtuel du groupe Les Sons Agréables le 25 février à 20h. Une prestation haute en couleur qui réunit de talentueux musiciens et chanteurs d'origine congolaise et sud-africaine. Ils vous surprendront par leur étonnant métissage de rythmes rumba, zouk et gospel. Un rendez-vous à ne pas manquer. Suivez le Mondo Carnaval sur Facebook et YouTube.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia, du Mali. Nombreux ont été les artistes que le concours Découverte a permis de faire éclater au grand jour. En 82, un Congolais du nom de Zao fit rigoler tout un continent en se parant des décorations de l'ancien combattant.
Eh oui, édition spéciale sur CUT 89,5 FM, Toronto. Mois de l'histoire des Noirs, en février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours. Un mois qui met l'accent sur la reconnaissance des contributions quotidiennes qu'apportent les Canadiens noirs à notre pays. Peu importe où vous vivez, nous vous invitons à vous informer, à nous suivre pour mieux connaître les réalités de ces communautés et sur les façons dont elles continuent de façonner l'histoire du Canada et du monde. Comment rendre les espaces artistiques plus inclusifs? Nous recevrons pour la première fois Nicole Baptiste. Elle est la présidente fondatrice de l'organisme Mosaïque Interculturelle et du Salon du Livre Afro-Canadien à Ottawa, vers 12h35, à ne pas manquer. Tous les Noirs n'ont pas le cœur à la fête. L'exclusion, la discrimination, l'intimidation, le racisme. Des jeunes Noirs qui se font apostropher par des jeunes étudiants blancs, graffitis racistes dans les toilettes. En 2022, le sort des Noirs ne s'est pas amélioré au Canada, y compris dans les milieux francophones. Et cette semaine, nous avons assisté à un événement historique. Pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire du Canada, un juge de la Cour fédérale accepte d'entendre un recours collectif des fonctionnaires noirs contre le gouvernement fédéral du Canada. Il réclame un dédommagement de plus de 2,5 milliards de dollars au gouvernement canadien. L'audience aura lieu du 21 au 23 septembre 2022. Une première au Canada. Vous retrouverez le lien sur de cette nouvelle sur popourrishow.com. Aussi, juste après le journal d'Haïti et des Outre-mer, nous entendrons un reportage capté sur le vif en Martinique avec quelques mordus du carnaval. Eh oui, le plus grand carnaval des Antilles, carnaval 2022 en Martinique, sera-t-il cadenassé ou débridé? Covid ou pas, malgré les restrictions sanitaires imposées par le préfet, certains Martiniquais se donnent rendez-vous du 27 février au 2 mars. Ils vibreront au rythme du carnaval. Qui vivra verra. Place au journal d'Haïti et le journal d'Outre-mer sur CUT 89,5 FM. Bon dimanche.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Enfin, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Avec vous, Adrien Delgrange, bonjour.
Bonjour, Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous.
Et ravi de vous retrouver pour le journal d'Haïti et des Amériques.
RFI.
Lundi 14 février, au sommaire, 6 mois après le séisme qui a durement touché le sud d'Haïti, nous vous proposons toute la semaine de prendre des nouvelles de ces zones ravagées en termes de logement, de santé, d'éducation. Aujourd'hui, nous parlons du quotidien des sinistrés avec Amélie Baron. Et puis, retour sur ce qui s'est passé lorsque la terre s'est mise à trembler le 14 août dernier. Nous serons pour cela avec Stéphanie Schuller. Au sommaire également au Canada, la police parvient à dégager l'accès au pont Ambassadeur, bloqué par des manifestants anti-mesures sanitaires depuis 7 jours. J'ai été invité par Vladimir Poutine. C'est par ces mots que Jair Bolsonaro, le président brésilien, nous annonce qu'il se rend demain en Russie pour évoquer les tensions avec l'Ukraine. Et puis dans notre rendez-vous des Outre-mer, aujourd'hui au sommaire, Benoît Ferrand.
Au sommaire, la commune martiniquaise du Morne-Rouge, dans le Nord, sous le choc après le saccage dans la nuit de vendredi à samedi de la stèle à la mémoire des anciens combattants.
Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et avant de retrouver Amélie Baron dans la capitale haïtienne pour donner la parole à celles et ceux en manque d'assistance après le tremblement de terre d'il y a tout juste 6 mois dans le sud-ouest d'Haïti, c'est avec vous Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour.
Retour sur la catastrophe quand la terre gronde et ses conséquences vitales sur les habitants. Nous sommes à présent le 14 août 2021. Stéphanie, il est 8h30 du matin quand la terre se met à trembler.
Oui, un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter frappe Haïti en ce samedi matin. La secousse est si forte qu'elle est ressentie dans tout le pays, mais 3 départements sont particulièrement touchés. Le sud, la Grand'Anse et les Nippes. Dans ces zones rurales, le tremblement de terre fait des ravages, notamment dans des petits villages à flanc de montagne, comme à Grande-Rivière, une section communale d'Ansavo, dans le département des Nippes. Une semaine après la catastrophe, Roselyne Selaus témoigne.
Presque toutes les maisons se sont effondrées. Des gens sont morts, d'autres ont été blessés quand leurs maisons se sont effondrées sur eux. Au moment du séisme, beaucoup de paysans étaient en train de travailler dans leurs champs. Certains ont été ensevelis par des glissements de terrain. Beaucoup sont encore portés disparus. Et puis, actuellement, il pleut. Des survivants n'ont pas d'abri pour dormir. En cas de séisme ou de cyclone, nous n'avons aucune structure qui pourrait nous servir d'abri provisoire. Les écoles sont détruites, les églises fissurées. Elles auraient pu servir d'abri, mais il n'y en a plus. Donc la situation de la population est vraiment catastrophique.
Nos situations qui traitent des poivres.
Le séisme du 14 août 2021 en Haïti fait précisément 2246 morts, Stéphanie, et 12500 blessés.
Mais les structures médicales dans les zones sinistrées sont débordées et souvent elles-mêmes partiellement ou entièrement détruites par le tremblement de terre. Des hélicoptères américains et de l'ONG Médecins Sans Frontières tentent alors d'évacuer les blessés les plus graves pour les amener dans les hôpitaux à Port-au-Prince. Pendant plusieurs jours, les habitants des villages enclavés qui le peuvent transportent leurs blessés à pied ou à dos d'âne à travers les chemins de montagne ensevelis. Et puis, d'un coup, l'afflux des patients s'arrête. On est au 8e jour après la catastrophe. Au centre de Sainte-Agnès à Beaumont, dans la Grand'Anse, la jeune médecin Rose Lafortune regarde la montagne en face. Elle est très inquiète.
On sait très bien que de l'autre côté de la montagne, il y a des patients qui ne peuvent pas arriver vers nous parce que la route, elle est mauvaise. On ne peut pas passer ni à moto, ni en voiture. Du coup, ils ne peuvent pas venir, nous n'avons pas vraiment les moyens d'aller vers eux, du coup c'est difficile.
Vous pensez que petit à petit les gens vont quand même arriver vers vous ici?
On espère parce que ce sont beaucoup de patients qui ont des fractures, qui probablement sont infectés en ce moment, qui vont probablement présenter une septicémie. Ils sont en risque, ce sont des gens qui peuvent mourir à n'importe quel instant s'ils ne reçoivent pas d'aide médicale et vraiment ça... C'est la situation dans laquelle nous nous trouvions et qui nous rend un petit peu impuissants devant cette catastrophe.
La mainmise des gangs sur le territoire explique en partie la grande lenteur, sinon l'arrêt de l'aide humanitaire apportée aux sinistrés du séisme. Mais l'argent manque aussi cruellement. Alors qu'Haïti est plongé dans une grave crise politique, sans président ni parlement, les donateurs internationaux sont certainement peu enclins à donner des fonds, pourtant vitaux au relèvement des milliers de familles comme celle de Bertha. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et c'est après-demain, le 16 février, que le gouvernement haïtien organise une conférence internationale des donateurs à Port-au-Prince, au cours de laquelle il espère récolter 2 milliards de dollars nécessaires pour remettre le pays sur les rails après ce tremblement de terre. 6 mois après le séisme, RFI se mobilise toute la semaine dans le journal d'Haïti et des Amériques. Et nous refermons cette revue de presse par ce concert. C'était hier à Los Angeles, concert dont tout le monde parle aux États-Unis, la crème de la crème des rappeurs, dont Eminem qu'on entend. Ils ont animé la mi-temps de la finale du Super Bowl de Los Angeles, une rencontre qui marquera l'histoire de ce sport.
Oui, et ça fait les gros titres de la presse aux États-Unis ce matin. Un match haletant que les Los Angeles Rams ont remporté face aux Cincinnati Bengals. Une fin hollywoodienne, titre le Washington Post. Mission accomplie, peut-on lire plus sobrement en une du Los Angeles Times. Et un commentateur du journal Le Devoir admet d'avoir eu plein la vue en regardant le match. Je croyais à une victoire des Rams, mais mon cœur y battait avec les Bengals, écrit-il.
Ainsi se referme cette revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Adrien.
En Martinique, la commune du Morne-Rouge, sous le choc après le saccage dans la nuit de vendredi à samedi, de la stèle en la mémoire des anciens combattants.
Oui, Morne-Rouge, c'est une petite commune dans le nord de la Martinique, juste en dessous de la montagne Pelée. L'acte de vandalisme révolte littéralement la maire de la commune, Jenny Dulis-Petit. Écoutez-la au micro de Franck Edmond Mariette.
Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça lamentable, j'ai trouvé ça scandaleux, monstrueux, criminel. Comment peut-on détruire ce monument aux morts sur lequel était gravé les noms de nombreux Péléens qui sont morts à la guerre 14-18 d'abord. Un monument qui a été construit en 1935. Donc la guerre 14-18, complétée après par la guerre 39-40. Et lorsque l'équipe municipale de mon prédécesseur Pierre Petit est arrivée aux affaires, nous avons décidé de graver également le nom des Péléens qui sont morts à la fois à la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Donc nous condamnons fermement et moi je dis, j'espère qu'il n'y a pas de Péléens mêlés à ça. En tout cas, s'il y en a, je leur dis, ressaisissez-vous. Le Morne-Rouge, c'est une famille, une grande famille. Nous voulons la paix, la réconciliation, l'amour, si nous voulons aller de l'avant. Et je souhaite que ce genre d'acte s'arrête sur la Martinique.
Direction maintenant la Guyane avec un sujet plus gai, le départ hier de la caravane du Touloulou. Le Touloulou, c'est un personnage traditionnel du carnaval, personnage féminin, costumé bien sûr, et surtout candidat au patrimoine de l'UNESCO. La caravane va parcourir tout le département pour promouvoir la candidature. Elsa Banis, membre de l'Observatoire régional du carnaval guyanais, au micro de Catherine Boutet.
On espère bien que ça apportera ses fruits et qu'on sera vraiment dans une logique d'adhésion totale, d'adhésion populaire. Mais je pense que la population, elle y est. C'est surtout au niveau politique. Bon, ça prend du temps. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours et que bon, on ne peut pas se multiplier. Mais par contre, il faut absolument que le politique, comme à Ferroura, comme maintenant fait Matoury, et je pense que les autres communes comme Cayenne semblent vouloir aussi se lancer dans la bataille, et ben qu'on puisse se réunir et qu'on mette en place effectivement à la fois le projet du Touloulou à l'UNESCO, mais aussi un projet qui fédère l'ensemble des protagonistes du carnaval.
Et vive le Touloulou à l'UNESCO. Bon après-midi Adrien, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand pour toutes ces informations ultramarines à retrouver tous les jours de la semaine sur Radio France Internationale. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Rédaction en chef Emmanuel Klotz et Véronique Guémard. Et quant à moi Adrien, derrière ce micro, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Bonne journée à l'écoute d'RFI.
France 24 et la première présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 et la première s'associent pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com.
Quel est le sens du carnaval dans notre société, qui plus est en temps Covid?
Il peut devenir un espace de transgression.
Il y a une chanson qui est cadeau, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est coco.
Est-ce que la chanson créole a encore sa place dans le carnaval aujourd'hui?
Un carnaval sans chanson est considéré comme une cuisine sans casserole.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, la beauté de notre carnaval?
Nous avons un carnaval en Martinique, tout le monde participe. Nous avons le Vaval, qui est le roi Vaval, mais sans Vaval, le carnaval sera un petit peu triste.
On est Covid, on est tous ces baïtas-là, on est matière pour faire un Vaval. Hein.
Sur Macron.
Et pourquoi?
Parce que c'est un pantin.
Pour moi, ce serait peut-être le préfet, le Vaval.
Nous avons un carnaval 2021 un peu particulier. Est-ce que vous préparez déjà le retour du carnaval comme il était auparavant pour 2022?
On est toujours avec un temps d'avance sur la préparation du carnaval prochain. Donc ça veut dire qu'il y a cette forme d'expression cette année due à la circonstance. L'année prochaine, on est déjà en train de réfléchir parce qu'on s'imagine que le Covid, même s'il est là, sa forme ne sera pas éternelle.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Et oui, le livre du jour des éditions prisedeparole.ca. Mouvement, un recueil de Catherine Voyer-Léger et deux autrices de la maison Prise de Parole en lice au prix Héloïse 2022 de l'Association acadienne des artistes semi-professionnels du Nouveau-Brunswick. Mouvement, le tout dernier recueil de Catherine Voyer-Léger aux éditions Prise de Parole. Ce recueil réunit deux textes, entre l'essai et la poésie, qui interrogent le rapport de territoire géographique et affectif. À travers eux, l'autrice explore des notions d'attachement qui se transforment à une époque où l'idée de la cellule familiale, du foyer stable, se confronte au désir de bouger pour le travail ou pour réaliser ses rêves. C'est un mouvement perpétuel qui est au cœur de ce recueil. Mouvement, le tout dernier recueil de Catherine Voyer-Léger aux éditions prisedeparole.ca ou que vous retrouverez sur notre site popourrichaud.com.
CIUT 89.5, the sound of your city. Stream CIUT at www.ciut.fm.
France 24. 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
What do the Francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Kader. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir Ipsy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à rise and shine.
C'est qui ça? Mais le gars, tu fais quoi? Oh, debout là-bas, là, debout, 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 debout!
Êtes-vous franglais ou êtes-vous francophone? En mars 2022, CUTFM, RFI et le partenaire vous invitent à célébrer le mois de la francophonie. Après plus de 2 ans à tourner en rond, cette 35e édition vous invite à bouger, à cadencer au rythme du monde de la francophonie. Concours, témoignages, débats, rencontres littéraires, cinéma, humour, des exclusivités et bien encore. Mois de mars 2022, bougez, bougez, pour changer son mal de place. Acteurs culturels, sociaux, éducatifs, devenez partenaires de la première radio de la ville de Toronto. Valorisez votre programmation de la semaine et du mois de la francophonie. Inscrivez-vous à notre programme officiel 2022. Envoyez-nous votre logo. Découvrez les modalités. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Êtes-vous franglais ou francophone? Nous sommes 300 millions de francophones dans le monde, alors il faut se parler. Et bougez, bougez avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. 35 ans déjà, on est toujours bien ensemble et ça va bouger, bouger.
On dit c'est ça qu'est la vérité.
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le 2e bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la Croix de Victoria. Marianne Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports, et continue de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. C
Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires du Canada. Chaque année, ils sont des centaines provenant de la République démocratique du Congo, d'Haïti, de Burundi ou encore du Cameroun à obtenir leur résidence permanente au Canada. Ont-ils fait le bon choix ? Être noir au Canada est encore synonyme d'appauvrissement, de discrimination et le gouffre s'est élargi en deux décennies. Comment éradiquer le racisme structurel ? Est-ce possible de promouvoir la pleine participation des francophones issus de la diaspora africaine et antillaise au sein de l'establishment francophone du Canada ? Une édition spéciale tout au long du mois de février, en partenariat avec la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, mois de l'histoire des Noirs de la ville de Gatineau, Ciné Franco, histoire des immigrants francophones, Sophie Franc et son spectacle Festive Ébène, le théâtre de la vieille 17 et mosaïque interculturelle, Tolalito Music et Mondo Carnaval du Québec, RFI, France 24 et TV 5 Monde. Et nos partenaires vous invitent à une série d'activités en mode virtuel. Découvrez leurs bons plans sur popourichaud.com. En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires du Canada. Des expériences qui ont façonné l'histoire des Noirs dans notre société. CUT 89,5 FM, chaque dimanche, de 11h à 13h. 35 ans, on est toujours bien ensemble. Émission spéciale à Mois de l'Histoire des Noirs, édition 2022. Et oui, vous êtes de plus en plus à nous suivre et à nous écrire. Merci de nous faire confiance. Merci de votre fidélité. J'espère que vous serez des nôtres lors de nos émissions spéciales dans le cadre du mois de la francophonie au mois de mars. Abonnez-vous à nos infolettres, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Pour réécouter nos émissions, une seule adresse, popourichaud.com. Afrique, préjugés et conséquences, un très bel article signé Makakoto, né à Douala au Cameroun, un artiste, un homme politique québécois. Il a été ministre de la Culture et des Communications au Québec sous le gouvernement Marois. Il écrit, je cite, « Voilà des générations que des préjugés négatifs portant sur l'Afrique noire sont véhiculés et intériorisés dans certains esprits occidentaux. Des élites économiques, politiques, religieuses et culturelles, de droite comme de gauche, l'école ainsi que les médias y ont incontestablement contribué. » Ces préjugés, ramenés à un niveau individuel, pourraient à eux seuls expliquer le fondement de l'arrogance, de la condescendance, du paternalisme ou du racisme à l'égard des Africains. Un article que je vous recommande absolument, c'est sur notre site popourichaud.com. Vous retrouvez d'ailleurs plusieurs liens très intéressants sur notre site chaque semaine. Et puis, il y a cet article qui a fait le buzz en Ontario français. En effet, le gouvernement canadien qui admet le filtrage des étudiants africains qui ne sont pas toujours les bienvenue au Canada. Pour Immigration Canada, ils ne répondent pas avec satisfaction aux critères de sélection qui sont en place. La nouvelle Université de l'Ontario français, surpris et choqué. Pourquoi un salon du livre pour les Noirs francophones au Canada alors qu'il existe déjà plusieurs salons du livre en Ontario et dans l'Outaouais ? Et quelle est la mission de Mosaïque interculturelle ? Direction Ottawa, la capitale fédérale, à la rencontre de Nicole Baptiste, présidente fondatrice de Mosaïque interculturelle et du Salon du livre afro-canadien. Animé depuis toujours par la lutte contre l'intolérance sous toutes ses formes, le sexisme, le racisme, la dictature et la violence, Nicole s'était investie très jeune dans la vie communautaire et culturelle de Montréal où elle a atterri à l'âge de 17 ans. Spécialiste en technologie de l'information et en administration, elle s'est impliquée dans plusieurs projets dès le début de sa carrière. Elle a aussi œuvré dans la documentation et la formation. Aujourd'hui, sa préoccupation du vivre ensemble dans les communautés culturelles de la société canadienne l'a amenée à fonder Mosaïque interculturelle et le Salon du livre afro-canadien. Allez, nous l'appelons tout de suite.
Oui, bonjour.
Madame Nicole Baptiste.
Oui, c'est c'est moi.
Oui. Bonjour, Eric Kader de CUT FM Toronto.
Oui, bonjour, bonjour.
Alors, je suis très heureux de vous accueillir pour la première fois à notre antenne et dans le cadre de nos émissions spéciales du mois de l'histoire des Noirs. Vous êtes la présidente fondatrice de Mosaïque interculturelle et du Salon du livre afro-canadien. Pourquoi avez-vous créé ces organismes? Pourtant, il y a plusieurs salons du livre avec des organismes francophones, communautaires, à Toronto, à Ottawa, à Sudbury. Pourquoi cette nécessité de créer un autre salon du livre?
Oui, bonjour. Bon, nous sommes situés à Ottawa. Et à Ottawa, il y a un festival de poésie et anglophone qui fait un espace pour les francophones, premièrement. Mais il n'y a pas de salon du livre francophone sur Ottawa. Il y a le salon du livre de Gatineau, de l'Outaouais, qui est dans la région d'Ottawa. Ça, c'est une chose. Alors, il n'y a pas un salon du livre francophone. Et il y avait un besoin. Nous l'avons créé, ce salon du livre, parce qu'il y avait un besoin de mettre la visibilité sur la littérature francophone afro-canadienne. Et surtout dans l'Ontario, les auteurs sont éparpillés dans les maisons d'édition et le public n'était pas conscient de leur présence. Et beaucoup d'auteurs aussi de nos communautés se font auto-éditer, ils s'éditent eux-mêmes. Alors à ce moment-là, ils ont moins de visibilité. Et nous avons remarqué que non seulement ils n'étaient pas connus au niveau de la communauté franco-ontarienne, mais ils n'étaient pas connus non plus dans leur propre communauté.
Oui.
Alors, il y avait vraiment une nécessité de mettre une visibilité pour ces auteurs, pour leur permettre de se faire connaître et de vendre leurs bouquins. Hein.
Alors, il y a plusieurs aspects. On peut parler de ces maisons d'édition qui ont de la difficulté depuis belle lurette de faire connaître leurs œuvres littéraires, les œuvres littéraires des artistes, des écrivains du Canada français à l'étranger. Parce que vous savez, on ne peut pas compter seulement sur la clientèle canadienne. Malheureusement, on pourrait parler pendant très longtemps sur les obstacles et les difficultés et les défis que rencontrent les écrivains francophones. Et surtout les écrivains noirs, francophones. Mais Dieu sait que fonder des organismes, un salon du livre, enfin des organismes à but non lucratif n'est pas si simple que ça. Ça demande une expertise, trouver des gens compétents pour siéger sur les conseils d'administration. Pensez-vous qu'il n'y a pas un peu un dédoublement dans les services destinés aux francophones dans la région d'Ottawa?
Alors, je dois vous spécifier que Mosaïque interculturelle ne s'occupe pas seulement du salon du livre. Le salon du livre afro-canadien est un volet de Mosaïque interculturelle. Mosaïque interculturelle a pour mission de faire la promotion de la présence de la culture afro-canadienne francophone dans l'Ontario et au Canada. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas un organisme même dans l'Ontario qui a pour mission la culture afro-canadienne. Canadienne, francophone. Et Mosaïque interculturelle est le seul organisme. Les autres organismes sont dans l'immigration et en même temps font de la culture, mais travaillent beaucoup sur l'intégration, l'immigration. Alors que nous, nous travaillons vraiment sur la culture, la promotion de la culture. Alors nous avons le salon du livre. Pendant le mois de l'histoire des Noirs, par exemple, nous faisons beaucoup d'activités avec les écoles. Nous offrons des cours de langue africaine et créole gratuitement en ligne. Et je ne pense pas qu'il y ait dédoublement, voyez, de notre côté.
Oui. Non, je vous dis ça parce que c'est pour jouer un peu à l'avocat du diable. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et souvent ils disent « Ah, comment se fait-il que ces gens ne sont pas venus nous voir ?» Les Noirs doivent se regrouper entre eux-mêmes pour desservir leur groupe, leur collectivité. Vous ne pensez pas que, quelque part, le système n'a pas fonctionné pour les Noirs francophones en Ontario ou au Canada?
Bon, effectivement, ce qui arrive, c'est que les organismes qui existent déjà, ils ont déjà, quand ils se sont formés, ils n'avaient pas cette vision d'intégrer la diversité. Ils ont créé des organismes pour répondre aux besoins des artistes, soit des artistes dans le milieu musical, les artistes de la scène, le théâtre, ou la peinture, ou la littérature. Maintenant, au fur et à mesure, les artistes de la diversité se présentent, mais la structure qui est mise en place n'a pas été créée pour leur donner un espace. Parce que qui dit donner l'espace, ça dit aussi d'accepter la différence, d'accepter la diversité des cultures. Vous voyez, par exemple, en théâtre, l'accent compte. Maintenant, comment dans une pièce de théâtre, on va accepter quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'accent québécois? Est-ce que cet organisme, je sais, qui fait la promotion, qui soutient les comédiens, par exemple, va défendre la cause de ces comédiens-là pour leur dire, hey, écoutez, nous avons des personnes qui viennent de partout, qui ont des accents, qui sont des francophones, ça il faut le spécifier, qui sont des francophones, mais qui ont des accents différents, faites-leur une place. Alors, malheureusement, cet espace n'a pas été créé à l'intérieur des organisations qui existent déjà. C'est pour cela que des fois, les personnes de la diversité se trouvent obligées de créer cet espace.
C'est vraiment dommage, en tout cas. Édition spéciale dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM. Notre invité aujourd'hui, Nicole Baptiste, présidente fondatrice Mosaïque Interculturelle et du Salon du Livre Afro-Canadien. Je vous invite à visiter son site web qui est très très bien fait d'ailleurs, mosaïqueinterculturelle.ca. Alors, Mosaïque Interculturelle, pour la première fois à l'antenne, et j'espère que vous serez parmi nos partenaires clés lors du mois de la francophonie, lors des festivités du mois créole, et lors des émissions spéciales dans le cadre de notre 35e anniversaire à l'antenne. J'espère que vous serez des nôtres, madame.
Ah, ben bien sûr, avec plaisir. Alors, je pense dire que à Mosaïque Interculturelle, on travaille, nous donnons beaucoup d'importance de place.
Oui.
Au partenariat.
Oui. Alors, je rappelle aux éditeurs que le mandat de Mosaïque Interculturelle est de faire la promotion de la communauté afro-canadienne, d'assurer l'intégration de cette communauté au Canada, et l'organisme a mis sur pied plusieurs programmes innovateurs afin de démontrer les talents artistiques, littéraires, culturels du Canada. Votre site, comme je l'ai dit, est bien fait, accessible. Et dimanche dernier, justement, nous avons reçu Jenny Laguerre, une des engagées avec vous, et le théâtre de la Vieille 17. Et elle est à la tête
du... C'est notre partenaire aussi avec lequel nous avons un beau partenariat.
Voilà. Alors justement, elle venait nous présenter le projet À la rencontre, un beau projet artistique. Parlez-moi un petit peu justement rapidement de votre implication dans ce projet, ce partenariat avec le Théâtre de la Vieille 17. Et qu'attendez-vous comme retombée?
D'accord. Alors l'idée, c'était d'inviter le public d'aller à la rencontre d'artistes afro-canadiens par le biais d'une vidéo portrait de ces artistes. Nous avons négocié ce projet avec le théâtre La Vieille 17 qui nous avait approché pour un partenariat parce qu'ils ont un très grand public très diversifié et pour nous c'était intéressant d'essayer d'atteindre. Tous ces artistes sont sur notre site web et sur le site web du théâtre de la Vieille 17 aussi.
Oui. Alors, Madame Nicole Baptiste, ça fait plus de 41 ans que j'assiste avec beaucoup, beaucoup d'amertume, je dois vous avouer, et de déception, de cette exclusion que vous avez mentionné tout à l'heure, des professionnels, des artistes noirs, des écrivains noirs, dans l'establishment francophone. Alors, nous avons assisté aux manifestations, vous avez été témoin il y a 2 ans de cela, les marches à travers le pays après le meurtre de George Floyd. Les Noirs ont exprimé leur calvaire, les inégalités, les injustices, et surtout les jeunes Noirs francophones qui sont passés à l'antenne, ils étaient plusieurs, pour nous dire que année après année, ils en ont marre, parce que c'est toujours la même chose, ils en ont assez. Et quand je parle aux décideurs de décision chez les francophones, ils me disent « ce n'est qu'une minorité marginale, ils ne voient pas l'urgence d'agir ». Quelle est votre réaction à ce sujet ?
Vous savez, je crois qu'en 40 ans, vous avez l'habitude, dès qu'il y a manifestation et tout, on dit toujours que c'est une minorité négligeable, comme ça, on minimise le soulèvement. Je ne peux pas parler de soulèvement, mais on minimise l'importance sociale de cette manifestation. Alors, c'est pour ça qu'à Mosaïque Interculturelle, il y a une chose qui nous préoccupe. C'est moi, quand on parle, vous aviez dit que ça fait 40 ans que vous suivez le secteur. En fait, ça fait plus de 40 ans qu'il y a une présence, afro-canadienne, qu'il y a une présence des communautés noires, des Caraïbes et de l'Afrique. Et ça, je tiens à spécifier parce que on parle souvent d'immigration, de nouveaux arrivants. Ça donne l'impression que ce sont des personnes qui viennent d'arriver et qui demandent beaucoup, là. Même si on vient d'arriver, on a droit présentement à des droits, mais il y a des personnes qui sont nées ici. Vous voyez, des fois on parle de reconnaissance des diplômes, je dis attention, il y a des personnes qui sont nées ici, qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années, vous voyez, comme Ginny que vous avez rencontré, et qui sont ici depuis la garderie, qui ont fait leur élémentaire primaire et tout jusqu'à l'université ou qui ont une profession artistique ou une profession libérale et qui n'arrivent pas à trouver du travail, qui n'arrivent pas à s'intégrer au niveau du monde artistique, par exemple. Vous voyez pourquoi? Parce que ces personnes-là, des fois, ont l'absence d'ici, ont été éduquées ici. Vous voyez? Et ces jeunes-là, c'est beaucoup d'entre eux font partie de ces citoyens qui sont nés ici, qui ont été éduqués ici. Et ça, c'est important de mettre l'accent là-dessus.
Alors, mais il y a beaucoup de lois, hein. Il y a des politiques d'équité en matière d'emploi, des politiques antiracistes dans les conseils scolaires, dans des organismes communautaires ou d'autres sphères. Mais qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi, malgré toutes ces politiques, malgré toutes ces lois, il y a toujours obstacle pour les Noirs francophones dans le système?
Bon, ce que nous vivons présentement, je peux dire, c'est que ces politiques sont mises en place par le gouvernement. Il y a des montants qui sont débloqués. Et ces politiques sont mises en place d'après leur vision, avec des objectifs de pourcentage de chiffres qui se sont mis. Ça fait juste, c'est après Floyd, là, ça fait juste 2 ou 3 ans que le gouvernement commence à aller vers la population pour négocier des programmes en partenariat avec la population. Tu fais des webinaires. Bon, et grâce à COVID, là, nous avons eu beaucoup de Zoom, là, avec des instances du gouvernement pour définir des programmes. Mmh. Vous voyez? Alors, ça veut dire que les manifestations ont porté fruit, quoi. Oui. Ça veut dire qu'il a fallu la pression de la rue pour que ça commence à bouger. Vous voyez? Sinon, c'était pris dans une globalité, alors que c'est un problème bien spécifique auquel les personnes d'ascendance africaine font face par les biais du racisme anti-noir. Il fallait mettre le droit sur le problème et puis pour qu'on puisse travailler là-dessus, comme si on parlait directement. Oui. Et c'est ce que, malheureusement, il a fallu la mort de Floyd, malheureusement, pour avoir cette ouverture-là. Et moi, je ne suis pas une croyante, mais des fois, je me dis, oh ben, moi, quand même, Floyd, on dirait que c'est notre Jésus-Christ, là, qui amène, malheureusement, c'est quelqu'un qui, sa vie, il a dû avoir cette souffrance humaine pour poser ces problèmes-là en toute, je dirais pas franchise, et puis voilà.
Alors, je rappelle aux gens qu'il y a eu, c'est sûr, c'était l'élément déclencheur au niveau mondial, la mort de George Floyd, mais il y en a beaucoup de George Floyd méconnus ou encore qui sont passés inaperçus, qui sont décédés, que je connais personnellement, y compris dans la région d'Ottawa, crise cardiaque, stress, parce qu'il y avait tellement de pression, discrimination, enfin on pourra en parler
pendant longtemps. Je veux rappeler aux gens qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence et qui, malheureusement, n'ont pas d'autres alternatives.
Hein? Et le plus difficile à vivre, je crois, dans le milieu du travail, c'est le stress créé par les biais discriminatoires.
Voilà.
Et ça se vit tous les jours.
Oui. Alors, le temps passe.
Par exemple, une personne d'ascendance africaine, des fois, se sent un peu obligée de faire attention dans le milieu de travail à tous ses gestes, à tout son comportement, parce que, des fois, tout est jugé en fonction de la couleur de peau.
Voilà.
Vous voyez, ouais. Par exemple, j'arrive au boulot, je suis de mauvaise humeur. Je suis un blanc, je suis de mauvaise humeur.
Oui. Alors, le temps passe, malheureusement. On pourra en parler longuement avec vous, mais rapidement. Alors, l'année dernière, Marie-Célie Agnan était la présidente d'honneur du Salon du Livre Afro-Canadien. Est-ce qu'il y aura un salon cette année?
Oui, bien sûr. Nous aurons un salon cette année, toujours au mois d'octobre, toujours la dernière fin de semaine du mois d'octobre à Ottawa. Nous avons eu le salon de hybride l'année dernière. Nous espérons l'avoir sinon en présentiel ou du moins hybride, parce que nous allons toujours présenter peut-être une version en mode virtuel pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Ottawa. Mais j'en profite pour inviter le public ontarien francophone du 27 octobre au 31 octobre au Salon du Livre Afro-Canadien. Alors, je dois vous préciser aussi que nous invitons toujours, par le biais de l'Association des auteurs de l'Ontario, nous invitons toujours les auteurs de toute diversité francophone à participer avec nous au salon. Et ils et elles, les auteurs et auteureuses sont toujours bienvenus et ils répondent toujours présentes, et sont toujours avec nous.
Oui.
Alors, du 27 au 31 octobre à Ottawa.
Et je rappelle aux gens qu'ils peuvent trouver une liste d'envergure et très riche des autrices, auteurs noirs que vous avez répertoriées en Ontario français et au Canada. Voilà une ressource intéressante pour les conseils scolaires, les collèges, les universités, n'est-ce pas? Nicole Baptiste, présidente fondatrice de Mosaïque Interculturelle et du Salon du Livre, mosaïqueinterculturelle.ca. Allez visiter ce site web. C'était un grand plaisir de vous recevoir à l'antenne aujourd'hui pour la première fois et j'espère que ce sera pas la dernière fois. Merci pour votre dévouement à la cause, pour tout votre engagement, toutes nos félicitations et que la force soit avec vous. Bon mois de l'histoire des Noirs.
Merci de cette opportunité de rencontrer le public de Toronto, le public franco-ontarien en général. À bientôt.
Au revoir.
Et oui, mille merci à Nicole Baptiste, présidente fondatrice de l'organisme Mosaïque Interculturelle et du Salon du Livre Afro-Africain à Ottawa. Merci pour votre engagement. J'espère fermement que vous êtes sur la bonne voie, car selon mes renseignements, les francophones noirs de la région d'Ottawa, de Gatineau et de l'Ontario ont perdu confiance dans les organismes francophones censés de les défendre leurs droits. On mentionne ici la passerelle et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et à ne pas oublier, madame, monsieur, Festive Ben, samedi 26 février, en ligne, tous les renseignements, les détails sur popourishow.com. Et bien le bonjour à Sophie Franck. Et oui, ne pas oublier aussi le rendez-vous spécial de Mondo Carnaval, les sons agréables avec une pléiade d'artistes, vendredi 25 février à 20h. Et tout cela se déroulera en ligne. Visitez notre site popourishow.com. Lancement du livre Blackness and la francophonie de l'autrice Amal Madibo. Elle est professeure agrégée au département de la justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario et de l'Université de Toronto. Notre partenaire Le Créfo en est un des organisateurs de cet événement et vous invite à une table ronde mardi 1er mars de 17h à 18h30. Tout cela se passe en ligne par vidéoconférence Zoom si vous préférez. Vous devez absolument vous inscrire sur Eventbrite, lien que vous retrouverez sur notre site popourishow.com. Merci à la maison d'édition Prise de Parole et aux nombreux artistes et professeurs qui nous écrivent chaque semaine, et oui, avec des commentaires et des suggestions. Mille merci. Célébrons l'histoire des Noirs aujourd'hui et tous les jours. Retrouvez les rendez-vous de la Fondation Sylvanie Lindor sur notre site. Et ne manquez pas les rendez-vous magiques de la Toronto Film Festival qui célèbre 10 ans d'existence jusqu'au 21 février, un voyage au cœur du cinéma africain. Et tout cela se passe en ligne, bien sûr. Merci à Alain Foucault, notre ami à Radio France Internationale, DJ Devera. Salutations chaleureuses à Sloane Ballant, Lucie Dufaux et toute l'équipe technique de CUTFM. Cette émission est réalisée dans des conditions extrêmement difficiles, car nous sommes toujours en mode Covid. Ici Eric Adair, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, un bon appétit. Si vous êtes à table, je vous laisse avec un air du carnaval de la Martinique. Ciao, ciao, ciao.
Allez, vous comprenez.